Alors, aujourd'hui, encore et toujours, des chansons joyeuses et futiles des années 70, plutôt la fin, avec, vous l'entendrez, pas mal de découvertes. Cela dit, eux, je crois que vous les connaissez bien.
She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. Then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind.
Queen, c'était le groupe Queen et la voix de Freddie Mercury. Une chanson sortie en 45 tours fin 1974 et extraite du troisième album du groupe Sheer Heart Attack. Elle a été le premier tube international de Queen. Alors Queen, un des groupes les plus universellement connus et appréciés aujourd'hui et qui pourtant a eu pas mal de difficultés à se faire un nom et à trouver une identité. Et oui, dans les années 72-74, face à un David Bowie, un Elton John ou un Roxy Music, ben c'était difficile pour un jeune groupe de se faire une place au soleil dans le rock anglais qu'on appelait le glam rock. Alors c'est une curieuse période puisqu'on parlait alors dans un sens d'ailleurs tout à fait positif de rock décadent. Pourquoi décadent ? Ben c'était en référence à l'ambiance grinçante qui était à la fois très effervescente artistiquement et en même temps très pessimiste, parfois même d'ailleurs tragique, de la République allemande de Weimar dans les années 1920. Et le rock glam ou décadent du début des années 70 encourageait l'expression de sentiments qu'on refoulait, des sentiments honteux ou pervers, tout en les présentant pour ainsi dire dans un écrin flamboyant. En fait, l'idée dans ces années-là, une idée qui parcourait ces milieux artistiques de la sous-culture, enfin pas seulement d'ailleurs, c'est que le monde occidental courait à sa perte. Certains pensaient même que le totalitarisme pourrait à nouveau frapper nos sociétés permissives et que, bah, avant que notre monde s'écroule, il fallait en profiter pleinement et lâcher la bride à tous nos instincts. Et dans ces années-là, d'ailleurs, 72-73, on a le succès international de la comédie musicale Cabaret, hein, avec Liza Minnelli, filmée par Bob Fosse, qui se déroule justement dans le Berlin des années 30. Et alors, c'est dans ce contexte que se lance le groupe Queen, un groupe qui a comme figure de proue un chanteur androgyne et bientôt ouvertement bisexuel, ce qui, dans le contexte de la période, est encore très très sulfureux. Killer Queen, c'est donc la première chanson de Queen qui fait tenir ensemble à la perfection tous les éléments très variés dont la fusion va rester la marque du groupe. La mélodie et le rythme, alors pour commencer, ont un style très désuet. Vous l'avez entendu, on s'entendrait plutôt à entendre un air de ce genre dans une opérette ou bien à la rigueur dans une comédie musicale. En fait, c'est le fruit de l'éducation musicale de Freddie Mercury, un garçon qui, durant ses années de pensionnat où il était à Bombay, sur la côte ouest de l'Inde, d'un côté mer d'Arabie, il s'était initié au piano et avait appris à connaître l'opéra. Et oui, en deux mots, Mercury, qui de son vrai nom s'appelait Farrokh Bulsara, avant de se retrouver dans une banlieue à l'ouest de Londres, eh bien, il avait passé son enfance et son adolescence en Inde, mais aussi sur l'île de Zanzibar, au large de l'actuelle Tanzanie, où son père travaillait comme comptable pour la couronne britannique. Alors, au sein de Queen, c'est Mercury qui compose au piano ses mélodies d'opérette. Et puis, il écrit les paroles aussi, et elles sont bien dans le ton décadentiste de la période. Killer Queen, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'évocation grinçante et narquoise de ce que, dans un langage un peu désuet, on aurait appelé une courtisane de haut vol. Alors aujourd'hui, on parlerait plutôt d'escort girl de luxe. Alors, elle boit du champagne de marque, elle se nourrit de caviar, elle fréquente les grands de ce monde. Et Mercury la compare à Marie-Antoinette, qui s'exclamait devant des gueux affamés qui réclamaient du pain, qu'ils mangent donc de la brioche. En anglais, ça donne « let them eat cake ». Évidemment, ça sonne un peu moins bien. Il s'agit en somme du portrait grinçant d'une femme qui, sous un masque de luxe et de pseudo-raffinement, cache en fait une abyssale absence de principe. Autre élément essentiel du style de Queen, les harmonies à quatre voix. La maîtrise du chant choral, c'est une des grandes forces du groupe. Et puis, il y a le solo de guitare, en l'occurrence, un solo d'anthologie de ce bricoleur de génie qu'est le guitariste Brian May, qui superpose ici des notes en cascade. Et cette combinaison comme ça de mélodies de musical aux paroles sarcastiques et de hard rock, eh bien, c'est le propre de Queen, qui a d'ailleurs été très encouragé dans ce sens par le succès d'un groupe qui était alors installé à Londres, un groupe d'origine californienne, Sparks, au style très très proche du sien. Alors dans la Grande-Bretagne de ces années-là, il y a eu Queen, bien sûr, mais aussi pas mal d'autres chanteurs et groupes qui eux aussi ont tenté des combinaisons originales. Alors malgré leur talent, ils n'ont pas tous eu la chance de devenir des groupes universellement connus. Certains ont eu au moins un tube, d'autres ont eu des succès plus modestes. En tout cas, ils ont tous joué un rôle important dans l'évolution du rock anglais, qui a été à l'origine de la première New Wave et de l'électropop naissante. Alors au milieu des années 70, il y a eu une effervescence absolument extraordinaire dans le rock anglais, et quand on réécoute certaines des productions de l'époque, on est frappé par leur fraîcheur, leur invention et leur originalité. Alors un peu au hasard, il y a cette chanson d'un groupe londonien qui s'appelait les Motors. La chanson a pour titre Airport, et on l'a beaucoup entendu en France l'année 1978. C'est le chanteur du groupe Andy McMaster qui l'avait composé. Alors Airport, en deux mots, ça évoque ces moments terribles qu'on a tous vécu où la personne que vous aimez prend un avion et s'en va, et puis vous restez seul comme un idiot, englué au sol, abandonné et délaissé. Une chanson très mélodieuse, on pense d'ailleurs à certains airs de Daniel Balavoine, et oui, qui annonce aussi les tubes de pop électronique du début des années 80. Alors c'est drôle, j'y pense maintenant. Confidence très très rapide, j'ai un souvenir personnel dont cette chanson occupe le centre. En 78, j'étais étudiant et je louais un petit meublé avec ma copine de l'époque dans le sud de Paris. Et de l'autre côté de la rue, il y avait une lycéenne ou une étudiante, je sais pas. Tous les matins, tôt, je la voyais s'approcher de la fenêtre de sa chambre au premier étage avec son petit miroir. Elle voulait capter un peu de lumière, c'est vrai qu'à Paris, il n'y en a pas beaucoup, pour se maquiller. Et un jour qu'il faisait beau, je l'ai vue ouvrir sa fenêtre. Elle a croisé les bras comme ça sur le garde-fou de son balcon. Elle a écouté cette chanson, Airport, qui a résonné à tue-tête dans la rue. Et je me souviens, elle avait les yeux dans le vague et l'écoutait, c'est tout. Il y avait un vide total, il n'y avait plus que cette chanson qui existait, tout était comme suspendu. Ça a été un moment très beau, très cinématographique. Airport, les Motors. We'll be right back.
faces and faces, going to so many places where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggies, for the baggage is so heavy. I hear the players ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really wants me. And it's getting me so. It's getting me so. I'd be much stronger, for the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane way down the runway. And I can't believe that she really wants me. And it's getting me so. It's getting me so.
like a truck with no believer, like a mother without a child.
C'est rare, hein. Ships in the Night, un titre de 1976, hein, au léger parfum de reggae, dû au groupe Bebop Deluxe, Bebop Deluxe, un groupe du nord de l'Angleterre qui a marqué le rock britannique du milieu des années 70. C'était un groupe, Bebop Deluxe, qui était organisé autour d'un guitariste qui s'appelle Bill Nelson. Il a eu un parcours assez curieux, hein. Fils d'un musicien de bal, élevé dans une banlieue ouvrière de la ville de Leeds, ce garçon qui est né à la fin des années 40, a été un guitariste aussi précoce que doué, puisque tout en suivant des études de graphisme et de peinture, il a joué très très jeune au sein d'un groupe, alors ça ne s'invente pas, d'évangélistes chrétiens, hein, des pentecôtistes pour être précis. Et puis alors là, la chose tout à fait exceptionnelle, c'est que très jeune, il a enregistré pratiquement tout seul, je crois, dans un studio qu'il a équipé lui-même, hein, à l'époque en 71. C'était très rare et surtout, à mon avis, très cher. Donc il a enregistré tout seul un disque de chansons, de folk blues psychédélique, un album où Bill Nelson se révélait déjà comme un guitariste hors du commun. Et cet enregistrement, il a attiré l'attention de John Peel, qui, dans ces années-là, était comme, d'ailleurs il est resté longtemps, le pape de la musique underground, hein, sur Radio One, qui était la plus importante radio nationale britannique, hein, de la BBC. Avec son groupe Bebop Deluxe, Bill Nelson a enregistré entre 74 et 78 une demi-douzaine d'albums pour la compagnie de disques Harvest, hein, celle qui a diffusé les albums de Pink Floyd notamment. Et les albums de Bebop Deluxe ont beaucoup marqué la période. Il y a en fait quelque chose dans leur musique de David Bowie. En fait, il faut imaginer chez Bill Nelson une sorte de Bowie version mystique qui serait partie du côté psychédélique, du côté Hendrix, si vous voulez. Mais c'est pas tout. Quand le mouvement punk est apparu, que la New Wave s'est mise, enfin, a explosé, Bill Nelson a carrément tout changé. Il est en effet un des premiers à utiliser une guitare synthétiseur et il est devenu de cette façon-là un pionnier de l'électropop au sein de son nouveau groupe qu'il a appelé Red Noise. Et depuis cette période, enfin, a circulé, hein, le début des années 80, eh bien, Nelson n'a jamais cessé d'enregistrer, mais il faut le dire, dans un certain isolement, en tout cas très loin de l'industrie du disque. Il a néanmoins multiplié les collaborations avec des musiciens amis, hein, très connus, comme David Sylvian, par exemple. Et puis, il est resté très prolifique, parce que quand on consulte son site internet, on apprend avec stupeur qu'il a enregistré et diffusé par ses propres moyens pas moins de 30 albums depuis le début des années 90, qui est, vous l'avouerez, pas mal pour un reclus. Un autre personnage du Londres du milieu des années 70, c'est Steve Harley, hein, Harley comme Harley Davidson, si vous voulez. Sauf que ce Harley, c'était un cockney londonien, gouailleur, hein, à la voix insolente et moqueuse, et dont le groupe s'appelait d'ailleurs justement Cockney Rebel. Alors imaginez une sorte de mélange de Dutron et de Gainsbourg, hein, qui serait apparu à Londres, et vous serez pas si loin du compte. Son tube de l'année 75 s'appelait Make Me Smile, entre parenthèses Come Up and See Me, et vous allez l'entendre, on est quelque part entre Dylan, Lee Kinks et le premier Roxy Music, mais c'est Steve Harley et Cockney Rebel.
You've done it all. You've broken every code. Pulled the rebel to the floor. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile.
Very Good Trip sur France Inter.
Secretary, c'était le groupe Sailor. Alors pour être honnête, je ne sais pas à quelle année remonte cette chanson de ce groupe londonien. Ce qui est sûr, c'est que Sailor a été très présent dans la seconde moitié des années 70 et qu'ensuite le groupe a continué à publier des enregistrements, mais la compilation que j'ai trouvée ne donne pas de date. En tout cas, peu importe, il est tout à fait possible que cette chanson remonte au début des années 90, mais en fait, je trouve que par son style et sa sensibilité, elle a quelque chose de rétro, de classique en tout cas. Il y a parfois comme ça des anachronismes heureux, si j'ose dire. Et The Secretary, alors c'est marrant, c'est une comptine un peu perverse, cynique même, hein. Les paroles s'adressent à un homme d'affaires imaginaire auquel le chanteur demande, alors dis-moi un peu, pourquoi ta secrétaire est cachée là-haut dans un appartement juste au-dessus de chez toi, toujours prête pour l'amour. Alors voilà, et alors Sailor, oui, un dernier truc, quoique anglais, le groupe avait une origine scandinave puisque son leader était un Norvégien qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, il n'est pas mort, Georg Kianus. Ce garçon avait inventé un engin invraisemblable qu'il avait baptisé le Nickelodeon, d'après le nom qu'on donnait jadis aux ancêtres des jukebox. Alors, le Nickelodeon de Kianus regroupait en une espèce, si vous voulez, d'armoire normande géante, deux pianos, un synthétiseur et un glockenspiel, hein, c'est une sorte d'ancêtre du vibraphone, le tout pour ainsi dire soudé, hein, dans le but de reproduire sur scène le son des enregistrements, alors qu'en fait justement, ils étaient que quatre musiciens sur scène. Voilà. Alors, encore plus obscur à présent, le groupe new-yorkais Milk and Cookies, sorte de chaînon manquant entre le groupe Sparks et les Ramones. Tinkertown Tomorrow, ça remonte à 74, et franchement, ça m'étonnerait que vous ayez déjà entendu ça. Pas facile de deviner ce que vous venez d'entendre. Une chanson de 1976 qui pourrait presque être punk, sauf qu'elle est accompagnée par un solo de violon électrique, ce qui, il faut l'avouer, n'est pas très punk. Il s'agissait du groupe londonien Doctors of Madness, qui était animé par le chanteur et guitariste Richard Strange, alias Kid Strange. Alors, son groupe est un de ceux qui ont précédé et annoncé la révolution punk. Et en revanche, bon, c'est vrai, la présence du violon électrique d'un dénommé Urban Blitz, hein, c'était son pseudonyme, rattachait, c'est incontestable, le groupe au passé et aux démonstrations de virtuosité rattachées au courant de la musique de fusion dite progressive. Doctors of Madness a eu un curieux destin, c'est de faire débuter en première partie de ses concerts dans les années 76 et suivantes pas moins de trois groupes essentiels, les Sex Pistols, The Jam et même Joy Division. Et par la suite, Kate Strange n'a pas disparu, non, pas du tout, il est devenu un journaliste, écrivain et même auteur de performances artistiques qui est reconnu d'ailleurs dans le monde entier, et régulièrement des musiciens bien plus connus que lui rendent hommage. C'est ce qu'a fait notamment Jarvis Cocker, le chanteur de Pulp, il y a une dizaine d'années au festival Meltdown, c'était à Londres. À présent, un autre groupe charnière de la période, Ultravox. Alors je précise tout de suite, il y a eu deux Ultravox. Alors le second est beaucoup plus connu, c'est un groupe d'électropop du début des années 80 qui a été associé au courant appelé néo-romantique et dont on connaît bien les tubes Vienna et Dancing with Tears in My Eyes. Son chanteur, c'est l'écossais Midge Ure. Mais avant ça, les mêmes musiciens ont accompagné un autre chanteur très intéressant, John Fox, ça s'écrit avec deux X, avec qui ils ont enregistré trois albums, très rapprochés d'ailleurs en 77 et 78. John Fox, il a été un pionnier du style électropop, c'était en solo au début des années 80, une période d'ailleurs où il a connu un certain succès avant de devoir s'effacer derrière des groupes qui ont ramassé la mise, je pense notamment à Depeche Mode. Mais avant ça, c'est lui qui animait ce premier Ultravox, un groupe où il y avait d'ailleurs, comme chez Doctors of Madness, un violoniste soliste. Et ce premier Ultravox, ça a été un chaînon manquant, tout à fait étonnant et largement méconnu, entre Roxy Music, le premier Roxy Music, et les Sex Pistols. Et oui, pour preuve, écoutez ce titre, Rock Rock, extrait du deuxième album de Ultravox paru en 77 et qui s'appelait Ha Ha Ha, eh oui.
Rock, rock.
plu aussi. Girls, 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 c'était la voix de Billy Idol avec son premier groupe Generation X. Une chanson qui a été enregistrée en 79 pour un troisième album du groupe que la maison de disques a tout simplement refusé de sortir. Enfin, plus exactement, elle a décidé d'en faire réenregistrer les chansons par Billy Idol et ce qui restait du groupe avec d'autres musiciens dans une optique plus grand public. Enfin, ça n'a pas marché. Et étrangement, cette chanson de Generation X, que je trouve très, très accrocheuse, Girls, 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 n'a pas été retenue pour la seconde version de l'album. Et il a fallu attendre 20 ans pour qu'une compagnie de disques allemande rachète les droits de la première version et le diffuse enfin sous le titre de Sweet Revenge. Et puis enfin, moi, 20 ans plus tard, je la découvre par hasard en préparant ce programme. Voilà, il y a des chemins étranges comme ça. Alors voilà, pour se dire au revoir, je voulais vous faire sourire et vous rendre un peu heureux. Bon, alors j'espère avoir réussi à le faire. Bien sûr, enfin là, c'est particulier parce que, voilà, je vous explique. Dans ces années-là, il y avait un groupe qui sortait du mouvement punk et de la new wave new-yorkaise, hein, qui plaisait à tout le monde, enfin, ou presque, c'était Blondie. Et le saviez-vous, Blondie a enregistré une de ses plus jolies chansons, Sunday Girl, en français. Maintenant, si vous ne comprenez pas un mot, ou presque, rassurez-vous, c'est normal, elle non plus, je crois, parce que son accent rend les paroles, je dirais, à 90% incompréhensibles, mais le cœur y était et c'est ce qui compte.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.